Pascal porte un chandail sans pantalon sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme.
Ah, ça tombe bien. Marceau aussi.
Marceau le midi.
Midi 39, c'est 6 degrés sur Québec actuellement. C'est de la bruine à certains endroits. Température stable à près de 7 pour aujourd'hui. Ce soir, de la pluie. Température stable à près de 6. Demain, vendredi, de la pluie. Minimum de plus 3. Un max de 5 degrés. Samedi, dimanche, c'est des averses. Vous avez des choses à nous dire? Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis? C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous communiquer ce qui se passe sur la route.
Ouais, ben c'est terminé pour l'incident sur Dufresne-Montmorency-Ouest. Il y avait l'accès à Félix Leclerc-Ouest qui était partiellement entravé. C'est terminé.
Parfait. Antonine Iacarini est en studio avec nous autres. Salut, Antonine.
Allô.
Content de te voir. J'ai plein de questions à te poser. Hier, il y avait un article sur l'homme très aimé, Pierre Fitzgibbon, qui a décidé de quitter la politique il y a de ça quelques semaines parce qu'il en avait marre de la politique.
Oui, il était tanné.
Ce qu'on pense, c'est qu'il s'est fait probablement démissionner, mais ça, on le saura peut-être plus tard. Puis rendu à l'âge qu'il a, bon, ça, c'est mon bagage de préjugés, je me suis dit, il va se la couler douce, il va relaxer, la politique, c'est éreintant.
Ben oui, il a dit, j'ai 70 ans, oui. Tu sais, la politique.
Et ce qu'on apprend, c'est qu'il s'en va travailler pour une firme qui fait du lobbyiste pour les batteries électriques.
Notamment.
Et je me pose la question, il n'y a pas une loi qui existait justement pour les gens qui étaient au gouvernement, qui s'en vont pour des firmes privées, qui vont avoir à faire du lobbyiste?
Oui, on a des lois assez sévères au Québec là-dessus. Donc, quand tu as été titulaire de charges publiques, ouais. Donc soit dans des cabinets politiques, des ministères, que ce soit au palier municipal ou au palier québécois, tu peux pas faire de lobbyisme pour 2 ans. Donc, du lobbying, c'est de vouloir influencer des titulaires de charges publiques, donc des députés, du personnel politique ou des fonctionnaires. Puis influencer, ben ça veut dire essayer d'avoir une subvention, essayer de faire changer des règlements, des lois, obtenir des autorisations environnementales, etc., etc. Par contre, tu peux quand même transiger dans certaines circonstances avec le gouvernement quand même, notamment dans des programmes normés. Donc, tu as des interactions avec le gouvernement, puis c'est seulement pour envoyer, par exemple, des demandes de financement dans des programmes normés, ça, c'est correct.
Ouais.
Ou demander des informations. On a le droit de demander qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ce projet de loi-là, c'est quoi les orientations gouvernementales à venir, etc. Mais tu ne peux pas influencer. Donc, M. Fitzgibbon, j'ose espérer, ne devrait pas faire de travail d'influence auprès des titulaires de charges publiques pour les 2 prochaines années. L'agence pour laquelle il travaille, par contre, peut en faire. Donc,
alors,
il peut donner des conseils.
Était tape à l'œil.
Oui.
Mais il ne fera pas de lobbyisme auprès d'entreprises ou
gouvernementales, en fait. J'espère, parce que sinon...
C'est parce que c'est Pierre Fitzgibbon, on hésite, hein?
Bien, c'est parce que, tu sais, des fois, il a l'air un peu de se foutre de pas mal d'affaires, notamment de l'image que ça donne. Parce que la loi, il est correct au sens de la loi. C'est sûr que ça paraît pas très bien. Par contre, qu'est-ce qui pressait, là?
Ça veut dire de démarcher avant aussi, ce genre de... Tu sais, quand il voulait quitter la politique, une annonce aussi rapide, c'est-tu parce que son téléphone a sonné une fois que l'annonce a été faite ou ça avait déjà été démarché?
Bien, c'est toujours un peu l'apparence que ça donne, un peu de pantouflage, un peu de porte tournante, des dossiers qui sont... Tu sais, la filière batterie, c'est pas un petit dossier au gouvernement. Puis en plus, tu le disais en introduction, Yannick, le départ de Pierre Fitzgibbon, on sait pas trop comment ça s'est passé derrière des portes closes. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de monde qui pense qu'il est parti avant que certaines choses de la filière batterie se mettent à mal aller. Donc, c'est ça. C'est une apparence qui est un peu particulière. Puis, je pense que son départ a été très nuisible pour le gouvernement Legault. Hey, il va y avoir une élection partielle. Là. Tu lâches en cours de chemin. Tu le savais bien qu'un mandat, c'était 4 ans. Puis là, en plus, tu décides d'aller travailler dans une agence qui fait du lobbying. C'est sûr que ça va donner un titre, t'appelles l'œil.
OK. Donc, il y a une loi qui existe, une loi bien mentionnée. Advenant le cas où lui va être lobbyiste dans 2 ans,
Il peut,
mais il doit s'inscrire au registre des lobbyistes.
Exactement. Parfait. Et c'est un registre qui est public en passant. Donc, n'importe qui, vous et moi, les journalistes, tout le monde, on peut aller voir le registre des lobbyistes. Vous voyez les mandats, les gens qui font des démarches d'influence auprès de tous les titulaires de charges publiques, à l'exception des OBNL qui n'ont pas à s'inscrire.
Okay. Mais toi, tu es la grande patronne de la CAQ, là. Je viens de te nommer, là.
Ah bon? OK, merci.
tu vois l'article dans le journal qui dit que Pierre Fitzgibbon fait ça maintenant. Il travaille pour une firme qui peut faire du lobbyisme dans dans les batteries électriques. Tu dis quoi à ton staff? N'approchez pas Pierre Fitzgibbon, même s'il vous demande d'aller prendre un café?
Si moi, j'étais la grande patronne d'un gouvernement, de toute façon, avec les activités de lobbying... Le lobbying, en passant, c'est quelque chose qui a mauvaise presse, mais c'est quelque mais c'est chose légal. De normal. Ouais. T'sais, dans le fond, si les cabinets puis les ministères ne parlaient pas à personne puis étaient dans une petite bulle, je ne pense pas que ce serait vraiment mieux. Il faut, y a des discussions, c'est démocratique. Tout le monde peut faire des démarches auprès du gouvernement. Fait qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose nécessairement là, de... deux messieurs avec des chapeaux de forme puis des cigares dans un couloir qui se passent des enveloppes brunes.
Si
c'est pas ça.
Je te donne ça. Ou...
Mais non, c'est ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est très, très normé. Fait que de façon générale, si moi, j'étais patronne du gouvernement, je dirais à tout le monde de jouer by the book tout le temps avec tous les lobbyistes. Tout le monde a avantage à jouer selon les règles du jeu de toute façon. Mais c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui s'appelle Pierre Fitzgibbon, si le nom de Pierre Fitzgibbon apparaît au registre de lobbyistes après 2 ans et 1 jour de son ce qu'on appelle le blackout, là, quand tu quittes la politique pour faire du lobbying, mettons que ça va leur faire une autre crise à gérer. Puis je pense que la CAQ en a eu suffisamment.
Ouais, mais tu sais, c'est un gars qui passe pas inaperçu. Là, c'est pas un gars qui mesure 5 et 10, un petit brun avec des lunettes fumées. Là. C'est un monstre, Pierre Fitzgibbon. Il est immense, il est bâti, il est tout le temps chemise-cravate. Il n'y en a pas deux des gars qui ressemblent à Pierre Fitzgibbon. Fait que s'il est vu en compagnie de quelqu'un de la Coalition Avenir Québec, ça va se savoir très rapidement.
Il va être reconnu. Non, c'est vrai. Puis il va falloir que la CAQ soit assez prudente avec ça. Puis visiblement, ben, les journalistes n'ont pas terminé de surveiller les faits et gestes.
Mais c'était
de
ma
M.
question.
Fitzgibbon.
Est-ce que sans les journalistes, on a une opération de sécurité, de surveillance, hein, je vais l'appeler comme ça, assez ferrée pour s'assurer que ça soit bien fait?
Ben non.
En ce moment.
Le commissaire au lobbyisme n'est pas à tous les coins de rue à surveiller tout le monde. Les journalistes jouent un rôle actif dans la surveillance entourant le lobbying au Québec. Là. Puis
sinon, ce serait un peu effet passoire dans certains cas. Pas par choix, mais par manque d'effectifs ou encore...
Ben, les médias, tu sais, on dit que c'est le quatrième pouvoir. Puis je trouve que dans le cas de l'encadrement du lobbying, ils le font particulièrement. Des fois, en tant que personne qui travaille dans les affaires publiques puis qu'il y a des clients qui font des démarches de lobbying auprès du gouvernement, je trouve que des fois, ça a vraiment mauvaise presse, le lobbying, alors que c'est pas quelque chose qui est foncièrement mauvais quand c'est bien fait de façon transparente. Puis je pense qu'il faut pas punir les gens... quand justement, ils agissent de façon transparente. Les gens qui s'inscrivent au registre, qui font les choses comme il faut, puis là, tu te ramasses avec des articles super négatifs, des fois avec des titres vraiment un peu de mauvaise foi. Ouais. Ben, moi, je trouve ça dommage parce qu'on veut encourager la transparence.
Mais c'est essentiel de pouvoir parler des 10 projets. Tu ne pourrais pas le faire sinon. Ça reste que ça a été encadré dans certaines années parce que les années d'enveloppe brune, il y en a une là, ou d'autres.
Ouais, il y a eu des petits enjeux éthiques bon, là, pendant quelques années.
Ça a changé, mais c'est super important de pouvoir le faire si on veut avancer. Sinon, tu ne peux pas commencer à deviner que telle chose existe, telle compagnie existe ou tel investissement est possible. Mais c'est ça, dans un encadrement quelconque, je me demandais si on avait peut-être à parfaire.
Bien, le commissaire au lobbyisme demande qu'on redonne un tour de roue puis qu'on resserre les règles. Ça n'a pas l'air d'être une priorité présentement pour le gouvernement. Il y a aussi toute la loi de l'accès à l'information. Et les oppositions posent beaucoup, les journalistes posent beaucoup toujours parce qu'il y a beaucoup de documents qui sont envoyés très, très caviardés puis ça fait toujours un peu les nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a un gouvernement qui peut avoir envie de s'attaquer à ça? Bien, les partis, il va y avoir des élections dans 2 ans. On peut avoir des promesses électorales, peut-être.
Les partis... bon, les opposants, souvent, sont plus...
pour.
Sont plus actifs, disons.
Ouais,
dans ce
une fois au pouvoir, on dirait que ça devient moins une priorité.
Ouais, c'est ça.
Ben non, il y a des choses qui ont été faites dans le premier mandat, mais là, pour l'instant, ça ne semble pas être une priorité. Mais c'est les normes éthiques, c'est quelque chose qui évolue. Puis quand on revisite il y a 10 ans, il y a 20 ans, on trouve toujours que, mon Dieu, on peut pas croire qu'on fonctionnait comme ça. Donc, ça va peut-être avoir un nouveau tour de roue là, entourant ces règles-là dans les prochaines années.
Antonine Iacarini, ton degré d'excitation par rapport à la mise à jour économique, là, ce matin versus bon. Là, une fois que c'est fait, une fois que c'est tombé.
Ben 20% mettons.
Parce 20% matin.
Ce qui est positif dans la mise à jour, parce qu'une mise à jour économique, ça sert à 2 choses. Faire le point un peu sur la situation économique, mais aussi ajouter certaines mesures à quelques mois là, du budget. Donc, les deux éléments ont été faits ce matin par M. Girard. Du côté de la situation économique, il y a quand même des bonnes nouvelles. La reprise est un petit peu plus robuste que prévu.
Ouais.
Rien pour s'exciter puis pour partir ça à go, on s'entend, mais la croissance du PIB est quand même un peu plus élevée que les prédictions qui nous avaient été présentées le printemps dernier.
On est encore sur le 11 milliards de déficit.
Oui, 11 milliards de déficit incluant les paiements au fonds de génération, au service de la dette. Donc, c'est un un déficit réel de plutôt autour de 8 milliards, mais il n'y a rien qui a changé. Fait que ça, les prédictions et tout ça, c'est correct.
Le déficit structurel est toujours là, il n'y a pas eu de coupure, rien.
Non. Et ce qui est important aussi de savoir, puis c'est un peu ma déception, c'est qu'on n'a toujours pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il n'y en avait pas déposé le printemps dernier. On considère que ce n'est pas encore le temps, mais qu'on vise toujours un peu le même échéancier pour atteindre l'équilibre budgétaire. Mais moi, ce qui me tanne aussi, c'est qu'on voit des compressions ici et là. Encore une fois, les journalistes font le travail, là, ça sort un peu partout. Le CIUS de tel endroit doit couper tant de millions. On coupe dans l'aide aux entreprises, au ministère de l'Économie. On coupe dans la francisation, mais le gouvernement dit non, je n'ai pas coupé. Mais là, les centres de services scolaires disent oui, on a coupé. C'est comme si on apprenait les informations au compte-gouttes, c'est quoi le plan? Parce qu'on le sait, ils ne veulent pas, le gouvernement, qu'on pense qu'ils font de l'austérité. On a 11 milliards de déficit, 8 milliards de déficit, si on veut sortir un peu plus la ligne d'Éric Girard. OK, mais est-ce que ça va continuer comme ça au compte-gouttes? Moi, je pense que le gouvernement devrait s'assumer, puis même à la limite, brander l'opération de révision des programmes d'optimisation d'efficacité. Moi, je pense que les gens, ils veulent pas d'austérité nécessairement, ils veulent pas qu'on coupe dans les services, mais ils aimeraient ça savoir c'est quoi le plan de match pour remettre les finances publiques en ordre. Parce que là, ça donne vraiment le jeu aux oppositions. On a vu un peu les réactions aujourd'hui. C'est vrai que ça peut donner une impression que c'est brouillon.
Surtout que tout le monde a les yeux tournés pour son prochain vote. Bon, beaucoup d'orphelins politiques là, dans tous les paliers gouvernementaux, mais vers l'économie. Puis c'est pas nécessairement une économie de gauche, de droite politique, c'est vraiment une économie de restructuration. Puis se dire, on veut pas vivre ce qu'on vient de vivre dans les derniers mois. Est-ce que vous avez un plan concret? Puis ça donnerait une crédibilité à chacun des partis que d'offrir cette feuille de route-là, peu importe sa ligne politique habituelle là, sur ce qu'on appelle, mettons, gauche-droite. Là,
oui, puis il y a tellement moyen de manipuler les chiffres pour faire de la communication. Tu peux les prendre du bord que tu veux. Là, on va prendre un pourcentage plutôt que le nombre absolu. Qu'est-ce qui paraît le mieux? T'sais, tout le monde fait ça. Il y a le Parti libéral qui demande qu'on mette un directeur parlementaire du budget à l'Assemblée nationale qui aurait la responsabilité de faire l'état des finances publiques de façon non partisane, de façon non politique.
Tu le nommes comment?
C'est qui, les nominations indépendantes se font par un vote aux deux tiers de
l'Assemblée nationale.
Des députés.
Ouais.
Donc, ça permet, c'est un parti tout seul ne peut pas faire les nominations. Donc, ça permet un certain filtre d'avoir des gens qui ne sont pas partisans nécessairement. Il y en a un à Ottawa, un directeur parlementaire du budget, qui fait lui-même ses propres analyses des finances publiques et qui, des fois, donne des petites tapes ses doigts au gouvernement.
Je surveillais ce qu'on allait donner au transport collectif parce que c'est une cause qu'on a pas mal à Québec, qu'on parle régulièrement. C'est 880 millions de dollars à peu près en 4 ans pour mieux financer le transport collectif. Puis avec les sommes annoncées, l'aide totale se chiffre à 1,1 milliard de dollars. Et les compagnies de transport disaient, ben nous autres, le déficit est déjà de 600 millions de dollars juste pour l'année prochaine uniquement. Fait que c'est pas suffisant. J'ai hâte de voir ce que le RTC va dire de cet argent-là qui tombe du provincial. Mais on demande pas au transport collectif, comme le RTC, de faire le ménage avant qu'on leur donne l'argent. Et ça, c'est fatigant pour le contribuable.
Oui, sauf qu'il y a tout un processus qui a été mis en place pour les sociétés de transport. Il y a des audits qui ont été faits. Donc là, il y a des constats qui ont découlé de ça. Puis c'est pas vraiment au ministre des Finances comme tel de mettre des exigences par rapport au budget. Ça va vraiment être à la ministre des Transports avec les municipalités. Parce que c'est pour ça aussi que c'est très compliqué, transport collectif, parce que c'est géré aussi par les municipalités. La ministre Guilbeault le disait souvent, c'est aux municipalités à gérer ça quand il y avait des déficits, justement, puis qu'elle voulait justifier un certain ménage comme tel. Fait que c'est ça. C'est pas dans la mise à jour économique qu'on aurait eu ces détails-là nécessairement, mais il y a quand même, on sent un adoucissement du gouvernement face aux sociétés de transport. Hein. Le ton était quand même plus dur
mais
il y a quelques mois.
Mais qui s'aime ou qui s'aime pas, je pense que pour la personne qui paye, là, d'un bord comme de l'autre, qui s'aime ou qui s'aime pas, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que notre argent est utilisé à bon escient?
Absolument.
Que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral pour ce qui est du transport en commun. Moi, je suis pro-transport en commun jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que là, c'est pas vrai que tu vas me mettre dans le transport en commun parce que j'ai plus de maudite scène pour payer ma voiture, là. Mais je suis pour le transport en commun. Mais là, les audits de performance à Québec, on est 9e. En fait, on est les avant-derniers. Le maire dit on fait quand même bien notre job. C'est nos choix qui ont fait en sorte qu'on est 9e. On est capable de bien vivre avec ça. Puis on demande encore de l'argent provincial. On a augmenté la taxe à l'immatriculation de 60 $. Puis on avait dit au départ, c'est pour augmenter 4 services sur le territoire de la Ville de Québec, alors que les journalistes se sont rendus compte que non, ça va dans le 40 30 millions de dettes. Le maire essaye de se sortir de ce pétrin-là. Mais je m'attendais, puis j'avais eu cette discussion-là avec un ministre fédéral sous Stephen Harper. Je pense que c'est le maire Labombe qui demandait une couple de millions là, pour l'anneau de glace qu'on allait avoir à Québec. Puis j'avais demandé, est-ce que vous êtes au courant de l'achalandage qu'il va avoir à cet anneau de glace? Il ne savait absolument rien. Puis ce qu'il me racontait, c'est qu'eux autres, il y avait des portefeuilles, il y avait des budgets.
Il fallait qu'il dépense.
Puis ça, je veux dire, tu dis, quand t'es pas au fait de ça, tu disais, moi, je t'envoie mon argent, mais toi, t'es chargé de la séparer puis de l'envoyer sans savoir si elle va servir à bon escient. C'est fâchant. Fait que là, le 880 millions, je trouve ça intéressant pour le service de transport collectif, mais en bout de ligne, ils vont-tu faire leur devoir, tu sais, à
la base?
Je pense
qu'ils n'auront pas le choix. Là, on est vraiment dans une logique, on disait tantôt, les gens veulent pas, ils ont des attentes en termes de responsabilité financière de façon générale. Le ménage que la ministre Guilbeault avait annoncé, ça a quand même brassé beaucoup. Il y a eu les Audi. Tous les yeux sont tournés vers les sociétés de transport maintenant pour trouver des solutions, pour s'assurer qu'il n'y avait pas des non-sens bureaucratiques puis des cracks dans lesquels l'argent s'en va, là. Donc, ça, on le sent un peu partout. T'sais, le gouvernement va faire le ménage. Je reviens sur l'aide aux entreprises parce que je trouve que c'est un excellent exemple où est-ce qu'il y a énormément de bureaucratie. C'est beaucoup de paperasse. Les entreprises font... Il y a toutes sortes de subventions. On n'a pas toujours les résultats. On comprend pas trop les retombées de ces programmes-là. Puis là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire le ménage dans tout ça. C'est ça, là, la révision des programmes. C'est est-ce que maintenant, on a des enveloppes qu'on fait juste dépenser parce qu'il faut les dépenser? Ou il y a un objectif clair, puis il y a des mesurables pour voir si la performance est là en bout de ligne dans
Mais
les programmes.
Ça, c'est tellement essentiel ce que tu dis, parce que même, je dirais pas l'entité pour laquelle j'ai entendu ça, là, parce que je veux dire, il y a quand même un devoir de discrétion que je trouve a été transgressé, mais ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que cette personne-là a eu gosse de m'en parler, sachant ce que je fais dans la vie. Mais c'est connu, je pense, que tu en as entendu souvent parler toi aussi, Antonine et autres, mais il y a un X mené par le gouvernement en termes d'enveloppe budgétaire, puis eux, s'ils ne dépensent pas toute leur enveloppe budgétaire façon annuelle...
Ça retourne au fonds consolidé.
Ça retourne au fonds consolidé, puis l'année d'après, ils n'ont plus le même budget. Si, mettons, il y avait un projet d'envergure et très important pour leur fonction, et ils l'ont mis pour l'année suivante, ils savent qu'ils ont besoin de ce budget-là, bien, ça se peut que cette année, ils achètent des pacotiers et des niaiseries
pour
juste
dépenser
pour être
l'enveloppe.
D'avoir dépensé l'enveloppe. Mais ben c'est pas
ça.
Drôle.
On veut plus ça. On
c'est
veut...
pas eux le problème, c'est la manière dont c'est fait.
On veut savoir c'est quoi les retombées puis les objectifs. En même temps, les gens sont un peu... On est un peu paradoxal là-dedans parce qu'on veut pas se faire couper aucun service. Les gens sont tous pour la responsabilité financière, mais en même temps... Quand on se fait couper quelque chose, tout le monde se scandalise de la coupure qu'il y a eu. Il y a deux semaines, la nouvelle PDG de l'Agence Santé Québec a fait une tournée d'entrevue.
Que tu as adoré.
Que j'ai adoré.
Comme communication.
Oui. Et qui laissait entendre qu'on allait couper 1 milliard en santé, alors qu'on a toujours l'impression que le système de santé est au bord du gouffre. En même temps, on se doute bien qu'il y a peut-être des non-sens bureaucratiques, qu'il y a peut-être de l'endroit où est-ce qu'il y a de l'inefficience. Mais tu sais, de penser que le gouvernement va réussir à se rendre en 2026 en contrôlant les déficits, mais en coupant aucun service, puis sans se faire accoler le mot austérité, c'est tout un défi.
Je vais te demander de faire de la magie dans tes communications parce qu'il reste à peu près une minute. Là, Donald Trump arrive au pouvoir dans les prochaines semaines. C'est le 20 janvier qu'il va être assermenté. Il déteste les woke. Là,
Woke sont partout.
Pierre Poilievre déteste les woke. Et là, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui s'est transformé hier, qui n'a pas l'air du tout à aimer les woke. Que se passe-t-il avec notre PSPP?
Ça fait un petit moment qu'il n'aime pas les woke, le PSPP. Là. Il a évolué depuis le début de sa carrière publique. Mais ce qu'il a dénoncé hier à l'Assemblée nationale, il donnait des exemples des dérives woke qui écœurent un peu tout le monde, la culture de l'annulation, la victimisation et tout ça. J'étais d'accord avec tout ça, mais je trouve que c'est vrai dans les deux côtés du spectre, c'est-à-dire de l'autre côté à droite complètement du spectre où est-ce qu'il y a des gens un peu plus d'extrême droite, je vois la même victimisation, je vois la même culture de la censure et de l'annulation aussi. Tu sais, l'histoire de Haroun Boisy, moi, j'ai dénoncé ses propos à Haroun Boisy. Je suis en désaccord profond, mais c'est sûr que j'ai vu toutes sortes de commentaires sur les médias sociaux, et notamment des commentaires racistes, et notamment de se faire dire « on va te déporter, retourne dans ton pays si t'es pas content ». Moi, je considère que ça, c'est aussi polarisant et aussi essayer de censurer les gens que les méthodes woke.
En accord en plus avec ses propos, mais là, tu viens lui donner un pushing supplémentaire en écrivant ce genre de commentaires. Il y a des gens qui me fascinent.
qu'il faut combattre, c'est la polarisation puis les extrémismes, en fait. C'est combattons l'extrémisme. Fait que le wokisme, c'en est une forme, mais il y en a d'autres formes aussi, puis de mettre les bases pour avoir un bon dialogue social, mm-hmm. pouvoir débattre de façon mature, pas émotive. Je trouve qu'au Québec, des fois, on n'est pas super bon
mais
là-dedans.
C'est
soit qu'on met sous le tapis, ou soit
ça.
Qu'on est émotif puis qu'on s'insulte. Il y a moyen de discuter
mais
ces enjeux-là.
C'est plate, Yannick. Yannick,
ça, c'est Antonine. Moi, c'est Yannick.
T'as pas assez de couleurs si tu fais ça comme ça.
Moi, ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait moins de clics un peu.
Ah ouais. Vous avez tout compris. Un gros merci, Antonine. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Puis, by the way, par texto, j'ai quelque chose à vous faire tirer. C'est le temps des fêtes qui arrive. Puis, avec ton entreprise, ça tente d'amener tes chums au restaurant. Bon, on a un restaurant pour toi. Ça s'appelle le Québec Brou. J'ai 10 personnes que j'amène. Bon, toi, bien entendu, plus 9 autres personnes au Québec Brou de Charlebourg. C'est une valeur de 300 $. Ce que je veux,